Alors, on va passer maintenant à des aspects de droit du commerce électronique, avec un groupe qui va nous présenter les apports de la loi République numérique au droit du commerce électronique. Donc, nous allons écouter le rapport de Mesdames Estelle Debès, Maria Kazanskaya et Nansa Ouattara. Vous avez la parole.
Bonjour à tous. Donc, mes collègues et moi-même allons maintenant aborder les apports de la loi pour une République numérique au commerce électronique. Donc, l'an dernier, le cap du milliard de transactions en ligne a été franchi et les Français ont dépensé 72 milliards d'euros sur Internet. Un chiffre en hausse qui confirme l'intérêt croissant pour le commerce électronique, qu'il s'agisse du commerce B2C classique ou du commerce collaboratif. Pourtant, les pièges se multiplient pour le consommateur, souvent manipulés, tromperies, phishing, comparaisons faussées, algorithmes incompréhensibles pour le profane. Il était donc nécessaire de rétablir un climat de confiance adapté à la variété des services en ligne. Les dispositions qui intéressent le commerce électronique se trouvent au titre 2 de la loi, consacrée à la protection des droits dans la société numérique, et plus précisément dans un chapitre premier intitulé « Environnement ouvert ». La loi vient consacrer donc une nouvelle notion, celle d'opérateur de plateforme en ligne. Nous verrons qu'à cette nouvelle qualification juridique se rattache un principe de loyauté qui prend la forme d'une obligation d'information visant à mieux protéger le consommateur. À cet égard, la loi a également mis en place un encadrement des avis laissés en ligne et consacré un droit à la récupération des données qui tend à réinvestir le consommateur de la maîtrise de ces données.
La loi pour une République numérique a créé une nouvelle catégorie juridique, celle des opérateurs de plateformes en ligne, définie à l'article 49 de la loi et codifiée à l'article L111-7 du Code de la consommation. Les éléments principaux de la définition à retenir sont, premièrement, l'opérateur de plateforme en ligne doit être une personne physique ou morale. Deuxièmement, il doit offrir un service à titre professionnel. Troisièmement, il s'agit d'un service rémunéré ou non. Et enfin, l'activité de la plateforme doit porter sur l'offre d'un service de communication au public en ligne. Au sein du service sont distingués les deux cas. Soit la plateforme effectue le référencement ou classement de contenu au moyen d'algorithmes informatiques, soit, comme par exemple les Google ou Kayak, soit la plateforme offre la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien ou d'un service. Ici, comme exemple, on peut citer Amazon, BlaBlaCar ou eBay. Avant la création de cette nouvelle catégorie, la loi dite LCEN a fait distinction entre les éditeurs et les hébergeurs. Au fur et à mesure, ils ont commencé à jouer un rôle qui ne correspondait plus à leur catégorie et ils obéissaient souvent à un régime juridique mixte. En 2014, la loi Hamon a appréhendé les sites comparateurs en leur imposant l'obligation d'information des consommateurs. Cette obligation a été étendue aux moteurs de recherche et aux marketplaces par la loi Macron en 2015. La loi pour une République numérique a harmonisé toute la législation qui existait avant en ajoutant à la liste des plateformes les sites marchands et éditoriaux et en créant une nouvelle catégorie juridique. Qu'y a-t-il alors à l'intérieur de cette nouvelle catégorie? La définition des plateformes permet d'englober les moteurs de recherche, les sites de partage de contenu, les marketplaces, les comparateurs de prix, les agrégateurs de contenu, les magasins d'applications et les réseaux sociaux dans certains de leurs services. D'ailleurs, la définition est critiquée d'être trop large et de manquer de précision. Une autre critique à la définition est liée à l'absence de la catégorie d'opérateurs de plateforme dans le droit de l'Union européenne. D'ailleurs, si une notion éventuelle était élaborée au niveau européen, il existe le risque de divergence entre celle-ci et la notion de l'opérateur de plateforme initiée par la France. Toutefois, du point de vue de la législation nationale, cette nouvelle catégorie est louable et bien utile car elle permet d'appliquer aux plateformes un principe de loyauté.
Le même article, en plus d'élargir la catégorie de ces opérateurs comme Maria vient de l'exposer, leur impose une obligation de loyauté dont on a justement parlé ce matin. Mais de quoi s'agit-il réellement ? L'article 49 prévoit que la plateforme devra informer de manière loyale, c'est-à-dire que l'opérateur devra appliquer ce qu'il a dit, ce qu'il a annoncé au consommateur, mais aussi une information qui soit claire, donc sans ambiguïté, et transparente, donc l'opérateur dit ce qu'il fait. La loi vise trois hypothèses. Tout d'abord, les conditions générales d'utilisation, mais également les modalités de classement, de référencement et de déréférencement. On pense ici par exemple à Google ou Amazon, sachant que la visibilité d'une marque conditionne son accessibilité aux consommateurs et donc sa survie économique. L'information doit aussi porter sur l'existence d'un lien contractuel ou bien d'un lien justement capitalistique ou d'une rémunération, dès lors que l'un de ces éléments influence la fourniture du service. L'information porte également sur la qualité de l'annonceur et sur les droits et obligations sociales et fiscales des parties. La loi pour une République numérique pose peut-être plus de problèmes qu'elle n'en résout avec ce principe de loyauté des plateformes. Elle tente de résoudre le déséquilibre structurel qui existe entre l'opérateur et le consommateur, mais il s'agit d'un principe qui est général. Donc il s'ajoute aux obligations d'information qui existaient déjà et qui pesaient déjà sur l'opérateur de la plateforme, donc en l'occurrence le e-commerçant. Et à ce titre, certains auteurs se posent la question s'il n'y a pas une surprotection du consommateur. Ce principe de loyauté pourrait être un principe limité s'il n'était pas étendu aux algorithmes. C'est la raison pour laquelle le projet de décret d'application prévoit donc une extension aux algorithmes, mais les organisations de professionnels craignent que justement il puisse y avoir une atteinte au secret des affaires, parce que les utilisateurs professionnels de la plateforme connaîtraient les critères de référencement et donc seraient à même de les manipuler pour pouvoir s'assurer une meilleure place sur la plateforme. Mais ce principe de loyauté des algorithmes, justement, on en a parlé ce matin, pourrait bénéficier également aux consommateurs, en ce sens qu'il serait possible d'aller vers un mécanisme qui se rapprocherait davantage de celui qu'on connaît pour les données publiques, mais aussi pour le professionnel qui pourrait anticiper le choix, qui pourrait anticiper le changement d'algorithme, comme ça a été le cas pour le récent changement sur YouTube. Donc cette information est loyale, claire et transparente, mais il y a un troisième risque, celui de noyer le consommateur sous la masse d'informations. C'est la raison pour laquelle l'article doit être analysé à la lumière du rapport du Conseil national du numérique, qui prévoit que seules les informations qui sont nécessaires et pertinentes soient extraites des conditions générales d'utilisation et délivrées au consommateur au moment opportun. Il s'agit d'une situation que l'on connaît déjà, avec Google notamment, qui nous affiche un lien commercial, et lorsque l'on clique, c'est une série d'informations qui sont pourtant mentionnées dans les conditions générales, mais qui permettent aux consommateurs d'avoir au bon moment l'information pertinente. Il s'agit donc de généraliser des pratiques qui existent déjà, mais également d'aller plus loin.
Donc l'article 50 de la loi introduit effectivement un nouvel article L111-7-1 au Code de la consommation qui impose à certaines plateformes d'élaborer et de diffuser des bonnes pratiques visant à renforcer l'obligation de loyauté, de clarté et de transparence. Donc cette obligation ne concerne que les plateformes les plus visitées, dont le seuil sera fixé par décret. On peut déplorer qu'il s'agisse d'un droit à géométrie variable qui exclut les plus petites plateformes du processus d'autorégulation assistée. Donc ce même article donne la possibilité aux agents de la DGCCRF de procéder à des enquêtes et de comparer les pratiques des différents opérateurs. Les résultats seront ensuite publiés sous la forme d'une liste des opérateurs qui ne respectent pas leur obligation d'information. L'autorité administrative va donc pointer les mauvais élèves. Or, on le sait, dans le commerce électronique, l'important, c'est vraiment la relation de confiance. Et donc, on imagine que cette exposition aura nécessairement des répercussions sur la réputation en ligne des plateformes, pour qui l'e-réputation est un enjeu essentiel. Donc la conséquence, elle devrait plutôt être positive, puisque cette publication pourrait entraîner une responsabilisation des plateformes et donc rendre effective l'obligation d'information. C'est donc la sanction réputationnelle qui a été choisie pour sanctionner, la loyauté qui pourrait donc devenir un argument marketing à terme. Ce principe de loyauté ne concerne pas uniquement les opérateurs, puisqu'il a été étendu de manière plus spécifique aux avis en ligne.
Qui n'a jamais consulté les avis en ligne sur tel site que TripAdvisor? Eh bien, ces avis en ligne participent aux effets de réseau. Ça veut dire que les précédents consommateurs qui ont donné un avis en ligne favorable, les autres consommateurs viennent, consultent les avis, font l'achat et ça favorise la croissance de l'opérateur. Jusqu'à présent, il y avait une norme AFNOR qui proposait d'encadrer des avis en ligne, mais c'était c'était une base volontaire. Donc la question était réglée de façon... il s'agissait d'autorégulation. Par exemple, Amazon a mis en place un système des avis vérifiés.
La loi pour une république numérique met un terme à cette autorégulation avec son article 52, codifié actuellement à l'article L111-7-2 du Code de la consommation. L'encadrement des avis en ligne impose désormais à la plateforme d'informer le consommateur de l'existence d'un contrôle de ses avis, mais également de justifier en cas de rejet d'un avis et de mettre en place un droit de réponse à destination des professionnels qui s'estimeraient lésés et qui estimeraient que justement un avis ne serait pas authentique. Mais l'encadrement des avis en ligne n'est pas suffisant pour pouvoir regagner la confiance des consommateurs et c'est la raison pour laquelle la gestion des données par le e-commerçant est désormais un enjeu fondamental.
Lorsqu'un individu effectue un achat en ligne, on sait très bien qu'il fournit un nombre important de données, donc son nom, son prénom, son adresse IP et bien d'autres encore. Il essaime ainsi tout type de données, qu'elles soient à caractère personnel ou non, entre les mains de différents acteurs. Mais le consommateur n'a pas toujours conscience de la valeur et de l'usage qui peut être fait de ces données. Pourtant, cette valeur, elle va pousser à l'agrégation de ces données qui va permettre le profilage des individus. Et ces plateformes vont utiliser ce profilage pour mettre en place des stratégies de marketing ciblées, notamment en recourant aux algorithmes prédictifs. La loi pour une république numérique semble donc retenir une conception économique de la donnée. De ce fait, elle s'appuie sur le principe d'autodétermination informationnelle, donc qui nous a été présenté un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Mais pour rappel, il s'agit de réinvestir le consommateur de la maîtrise de ces données. C'est donc à la lumière de ce droit subjectif que doit être apprécié le droit à la récupération, qui est reconnu à l'article 48 de la loi et codifié à l'article L224-42-1 du Code de la consommation. La loi adopte une approche catégorielle, puisque seuls les consommateurs pourront se prévaloir de ce droit. Dans une sous-section 4, la loi annonce récupération et portabilité des données. Pourtant, il faut bien faire la distinction entre les deux. La récupération consiste pour le fournisseur de services à transmettre directement au consommateur une copie de ces données, alors que la portabilité consiste pour le fournisseur de services, de transmettre directement à un autre fournisseur les données du consommateur. Donc cette distinction, elle est importante puisqu'en dépit de la sous-section annoncée, la loi ne consacre en réalité qu'un droit à la récupération des données, contrairement au règlement européen qui lui consacre la portabilité. Donc la loi française impose seulement aux fournisseurs de services d'offrir la possibilité aux consommateurs de pouvoir récupérer leurs données de manière aisée. Donc le transfert vers un autre fournisseur ne pourra donc se faire que par le biais du consommateur lui-même. Pour en revenir au droit à la récupération, le législateur européen a déjà consacré un droit similaire à son article 20. Et d'ailleurs, l'entrée en vigueur des deux textes a été alignée au 25 mai 2018. Ce règlement européen qui concerne les données à caractère personnel, a donc laissé peu de marge de manœuvre aux législateurs français, et donc ne seront concernées par définition que les données qui ne sont pas à caractère personnel. En définitive, les données concernées seront assez limitées, puisqu'il s'agira des données relevant de fichiers mis en ligne par le consommateur, ainsi que des données résultant de l'utilisation d'un compte d'utilisateur. Seront aussi exclues les données ayant fait l'objet d'un enrichissement significatif par le fournisseur. Donc, le législateur a même prévu une présomption de non-enrichissement significatif qui sera complétée par une liste établie par décret. Donc, jusque-là, on peut se demander si, par exemple, une image qui a été éditée via un filtre Instagram pourrait ou non être considérée comme une donnée ayant fait l'objet d'un enrichissement significatif. Donc, le droit à la récupération peut être accueilli de manière favorable, même si on peut tout de même déplorer l'étendue limitée de sa protection. D'un point de vue plus technique, la fonctionnalité devra être mise en place gratuitement par le professionnel et les données devront pouvoir être récupérées via un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable. La question de l'interopérabilité est donc primordiale pour que le consommateur puisse exercer de manière effective son droit à l'autodétermination informationnelle. Finalement, ce n'est pas tant un droit qui vise à protéger la vie privée du consommateur, mais plutôt un droit qui préserve ses intérêts économiques et qui a aussi pour finalité d'améliorer la concurrence.
Pour conclure, nous dirons que la loi pour une République numérique tente de mettre en place une meilleure lisibilité des informations et donc une meilleure compréhension de ces informations pour les consommateurs et améliorer la confiance que les consommateurs pourraient justement avoir sur ces plateformes, malgré les sanctions rendues publiques aujourd'hui par la DGCCRF et qui concernent notamment Amazon. Mais le nouvel enjeu auquel les e-commerçants justement devront faire face et devront pouvoir intégrer est le principe de l'autodétermination informationnelle. Nous vous remercions de votre attention.
Bien, merci beaucoup pour votre présentation, toujours aussi complète, ludique, intéressante. Vous nous avez bien mis en relief les points les plus importants et tracé des liens avec d'autres aspects qui ont déjà été vus, notamment sur le droit des données personnelles.